Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans l'épisode que nous avons vu la dernière fois, le livre de June Lewitt, Vivre à Hébron, nous avons évoqué la tuerie perpétrée par le docteur Baruch Goldstein au tombeau des patriarches. Et depuis cela, la vie très difficile à Kiryat Arba et Hébron est devenue carrément une explosion de peur, les jets de pierre sur tout ce qui bouge n'étant et ne sont pas arabes. Tout cela, c'est quotidien. Alors reprenons vite notre lecture pour savoir ce qu'il a mené en la suite. 2 mars. Nous revenons à la vie sur un espace pas plus grand qu'un timbre-poste. Toutes les 2 heures, les cars partent avec une imposante escorte de l'armée. Personne ne peut quitter Kiryat Arba en dehors de ses convois. Aujourd'hui, les cars ont dû faire un détour sur la route de Jérusalem pour éviter les villes arabes où il y avait de nouveau de grosses émeutes. Et il n'y a toujours pas de service pour Be'er Sheva, au sud, où 9 colonies sont encore occupées de tout. Esther est allée à l'école, mais il lui a fallu 2 heures pour revenir à la maison. Même en prenant des routes éloignées, à l'approche de Kiryat Arba, on leur a lancé des pierres plusieurs fois. Maintenant, elle a peur de retourner à l'école. Dans ces conditions, beaucoup craquent. Sa prof s'est mise à hurler quand elle et ses amis de Kiryat Arba firent allusion à Baruch en disant, selon la tradition, « Baruch, que sa mémoire soit bénie !»« Cet assassin ! Sa mémoire doit être bénie » cria-t-elle. « Vous ne devez même pas mentionner son nom dans ma classe !»« Mais il était notre médecin et c'était un fou !» Cependant, les gens d'ici ne peuvent pas condamner publiquement son acte. Ils comprennent trop bien ce qui l'a conduit jusque-là. Ils comprennent aussi que, s'il parle contre lui, sa famille en souffrira. Eux, ils ne peuvent lui survivre qu'en croyant qu'il est devenu un héros et un saint. Mais dans l'intimité, beaucoup disent qu'il était fou et immoral. Comment est-il possible d'attaquer des gens qui vous tournent le dos, alors même qu'ils sont en prière et désarmés? Qui oserait tirer dans le dos des enfants et des vieillards? D'autres disent que ce qu'il a fait est loin d'être bon pour la nation juive. Il a donné au gouvernement de gauche de bonnes raisons pour évacuer les colonies d'Hébron, comme ils ont toujours voulu le faire. Et maintenant, alors que les agressions sont de plus en plus nombreuses, la ville et toutes les colonies alentour n'ont même plus de médecin-chef. Il a aussi abandonné une femme et 4 enfants. S'il avait vécu, il en aurait probablement eu 4 autres. Et s'il avait vécu, il aurait sauvé des centaines de vies humaines. Mon beau-frère, Neil, qui est rédacteur sportif au New York Times, nous a appelé samedi au milieu de toute cette agitation. Il m'a demandé si je pouvais écrire quelque chose sur le drame et le lui envoyer. Ce serait très vendable. Je lui ai répondu qu'il me faudrait des années pour mettre au clair ce qui s'était passé. « Tu n'as pas des années, June. C'est maintenant que c'est chaud. » J'essaie de faire face à tout ça dans mon journal. « Tu écris un journal ?»« J'en tiens un depuis quelque temps. Envoie-le-moi tout de suite. »« Je ne peux pas, Neil. Ce sont des centaines et des centaines de pages. Beaucoup de choses personnelles et encore d'autres sur le roman que je suis en train d'écrire. Envoie-le-moi, June !» Frank et moi en avons discuté. Frank ne voulait pas que je le fasse. Je lui ai dit « Je ne peux pas le refuser à Neil, mais je vais lui envoyer seulement des extraits. Et de toute façon, il n'en tirera rien. 13 mars. La vie s'est brisée. Toute notre conception du monde et de la vie s'effondre. Pareil à l'une de ces inondations qui engloutirent des civilisations et n'en laissèrent que les fondations à renouveler, Baruch Goldstein a laminé notre propre civilisation. Il y a des années que j'ai commencé à écrire ce journal. À l'origine, c'était dans le seul but d'accompagner mon travail sur le roman. Les notations sur Kiryat Arba servaient surtout à évacuer tout ce qui me détournait et compliquait ma concentration sur le roman. Fondamentalement, pour moi, le vrai travail, la réalité, mon être même, était dans l'écriture du roman et non pas dans mon rôle de colon juif en Judée. Mais aujourd'hui, cette fiction s'est brisée sous mes yeux. Vivre ici, alors que le monde entier nous dévisage et qu'il ne nous reste plus aucun espace pour reprendre notre souffle, prend le pas sur tout. Des journalistes, des reporters arrivent de partout. On questionne, on veut filmer, nous montrer, nous mettre en scène. Brusquement, les yeux du monde se tournent sur notre petite colonie et moi qui ne l'ai jamais aimée, moi qui ne m'y suis jamais sentie véritablement intégrée, j'en fais partie. Neil a sans doute raison. Il vaut mieux maintenant laisser de côté mon roman et me concentrer sur ce journal pour témoigner, autant que faire se peut, de cet étrange moment. C'est juste dans notre pensée que nous faisons l'expérience de la brisure. Notre imagination semble avoir des ailes. L'acte de Baruch réintroduit en chacun de nous le principe du martyr. Il réintroduit l'idée qu'un juif peut mourir en accomplissant une chose totalement interdite par sa religion. Depuis 2000 ans, notre histoire raconte les massacres subis par les juifs, mais pas ceux qu'ils ont accomplis eux-mêmes. Une question revient sans cesse. Peut-être n'est-il pas si mauvais que cela, pour les Juifs, de répliquer au meurtre par le meurtre. Pendant le repas du Shabbat, au goût, grand dégoût de Franck, nous nous sommes retrouvés en train de parler tactique de massacre. Qu'est-ce qui nous arrive ? En vérité, Baruch Goldstein a changé la conscience de chacun de nous. Il a agi comme les Juifs de la Bible. Simon et Lévi, eux aussi, tuèrent des civils désarmés, tous les citoyens de Sichem, et cela même après qu'ils furent circoncis. L'État d'Israël est fondé sur la Bible, donc soit elle est notre référence, soit elle ne l'est pas. Si elle l'est, tout est à prendre en compte. Et si elle ne l'est pas, pourquoi faire semblant de s'y référer sans cesse? Autant de questions qui ne nous laissent pas en paix. Franck ne parvient plus à dormir. Il se bat, il lutte encore contre ce qui est arrivé. La maison est pleine de discussions. Samuel et Esti soutiennent Baruch. Yoshi ne sait pas encore. Il veut du temps pour se décider. Franck, quant à lui, est convaincu que cela ne nous apportera que plus de tragédies. L'armée a désormais l'ordre de s'opposer par tous les moyens à une nouvelle attaque juive contre les Arabes, même si les soldats doivent tirer et tuer des Juifs. Et que se passera-t-il si l'un de nous doit tirer pour se défendre contre une attaque arabe ? Est-ce la tragédie à laquelle pense Franck ? Une guerre civile ? Mon Dieu, comme tout cela pèse sur nous ! Esti ne veut plus faire le trajet de chaque jour à Jérusalem, et donc plus d'école. Le conseil local est d'accord pour que nous ayons un enseignant ici qui puisse faire classe aussi longtemps que les enfants n'iront plus à Jérusalem. Il réalise parfaitement que les gens risquent de partir d'ici s'il est impossible d'y vivre une vie normale. Mais le problème est de savoir où trouver un enseignant. Tous ceux qui vivent dans Kiryat Arba travaillent déjà. Et quel serait le professeur de l'extérieur assez fou pour venir prendre une classe dans ces conditions? Il pleut et les nuages touchent le sol. Le temps lui-même reflète ce chaos où nous nous débattons. Lorsque le couvre-feu sera levé sur les villes arabes, à quoi va ressembler la vie? Le Hamas infiltrera ses gens chez nous. Des Arabes parlant l'hébreu, vêtus comme les dévots juifs et qui placeront des explosifs sur le bord des routes ou en rempliront des voitures qu'ils lanceront contre les cars. Les familles explosent. Les enfants restent chez des parents à Jérusalem pour n'avoir pas à faire le trajet. Et Samuel est le seul à faire l'aller et retour chaque jour parce que nous n'y connaissons personne. Des maris passent la nuit près de leur travail. Franck va camper près de Beersheba cette nuit. Les soldats patrouillent dans les rues, le long des clôtures de la colonie, dans la vallée et les terrains vagues. Ils se sont installés juste sous les fenêtres de notre chambre et restent de garde 24 heures sur 24. Leur communication radio pénètre jusque dans mes rêves. Tant de gens vont dans le petit parc derrière la banque et le centre commercial sur la tombe de Baruch que la police l'a entouré de barricades. J'ai vu la femme de Baruch qui portait sa petite fille de 2 ans. Comme je m'étonnais de la voir déjà reprendre les choses en main, elle m'a répondu « Est-ce que j'ai le choix ?» Elle est seule, Shiva est passée, mais elle apprécie le calme. C'est bien le calme, j'en ai besoin maintenant. Souvent dans la journée, et plus souvent encore durant les insomnies, la nuit, nous entendons le haut-parleur de la mosquée et la voix du muezzin qui récite des versets du Coran. Brusquement, son ton monte, devient aigu et il hurle « Hikbak al-Yahyoud !» Puis il revient au verset. À la recrudescence du fanatisme musulman va correspondre celle des juifs d'ici. J'ai déjà entendu des choses comme « Ces Arabes ont eu le grand honneur que ce soit un saint qui leur donne la mort ?» En fait, le sentiment général est maintenant que Baruch était un ange ayant pris l'apparence d'un homme, d'un père, d'un mari et d'un médecin. Comme dit sa mère, « Je ne pouvais pas supporter sa mort jusqu'à ce que je réalise qu'un homme si juste devait accomplir sa mission jusqu'au bout. Il faut qu'ils comprennent ça, ceux de la gauche comme ceux de la droite. » Je sens l'air trembler autour du caveau des patriarches. L'atmosphère, d'ordinaire si épaisse et lourde, devient tumultueuse, comme si une invisible et pour nous incompréhensible bataille se livrait dans les cieux. Iréna, ma guérisseuse, est d'accord avec moi sur ce sentiment. Avant l'acte de Baruch, il y avait une tension épouvantable. Une obscurité sinistre nous enveloppait, apportant la confusion et la maladie. L'imminence d'un désastre était perceptible. Iréna, au cours d'une méditation, perçut l'approche d'une force capable d'empêcher ce désastre. Aujourd'hui, elle pense que Baruch était cette puissance. D'autres croient que nous aurons bientôt une guerre civile. Puis, que viendra l'affrontement contre Gog et Magog, ainsi qu'il est prédit dans la Kabbale? Une note. Gog et Magog, personnages symboliques, figurant les nations païennes mobilisées autour de Satan pour l'ultime combat contre Israël. Selon la prophétie d'Ézéchiel, cette bataille sera le prélude au retour du Messie. Ainsi qu'il en fut lorsqu'on enterra Barak, il y aura la pluie et la grêle, ainsi qu'on enterrait les justes. Puis enfin, après la bataille contre Gog et Magog, l'heure sera venue d'accueillir le Messie. Dans un magasin, aujourd'hui, j'ai entendu ce dialogue. « Peut-être que le Messie sera quelqu'un de Kiryat Arba », dit une cliente. « Eh, qui sait, peut-être que ce sera moi », lui répondit le patron du magasin. « Dans ce cas, il ne faudra pas m'oublier », fit la femme. « J'ai toujours été gentille avec vous, non ?» Brusquement, des bruits métalliques et des roulements bizarres. Je regarde dehors et vois les gosses du voisinage descendre la rue dans des chariots de supermarché. Les chariots appartiennent à une épicerie du quartier. Les enfants me racontent que l'épicier est parti il y a 2 jours avec femme et enfant. Il a fui discrètement, abandonnant son épicerie et un stock qui atteignait le plafond. Son fils était le grand ami de mon Joshua. En allant à la piscine, mes filles me supplient pour que leur prochain anniversaire se passe ailleurs qu'à Kiryat Arba. Le cadeau de leur rêve serait de faire une fête dans une nouvelle maison. « Je te jure, maman, cet endroit est pas possible !» s'exclama Myriam. « Moi, une fois que j'en serai partie, je n'y mettrai plus jamais les pieds !»« De toute façon, peut-être bien que Kiryat Arba appartiendra bientôt aux Arabes !» répliqua Esti. Mars. La nuit dernière, je me suis réveillée en sueur et pourtant glacée comme une morte. Je venais de rêver que Frank mourait pendant son retour à la maison. D'être éveillée ne m'a pas réconfortée pour autant. Le pressentiment d'un désastre me poursuit encore. Je suis tout de même allée à Jérusalem. Pendant que nous traversions les villages arabes, la tension était palpable. Ils jetaient des pierres contre le car en ricanant et en hurlant leur haine. Les soldats restaient là, sans rien faire. En rentrant à la maison, nous avons parlé avec les enfants. L'un après l'autre, ils m'ont raconté leurs cauchemars. Par exemple, que les Arabes étaient victorieux de nos soldats. Ils les abattaient en riant. Esti, elle, a rêvé que Hava puisse sa mémoire être bénie. La pourchasser. Les Arabes avaient lancé un ultimatum. Si Kiryat Arba n'était pas évacué au 15 mars, ils attaqueraient. Et soudain, on entend une foule énorme qui marche vers nous depuis la vallée. Des jeeps de l'armée arrivent à toute vitesse pour renforcer leur position au pied de notre immeuble, même sous nos fenêtres. J'écris alors qu'on entend les hurlements juste de l'autre côté de la vallée, mais je ne veux pas écrire sur la peur. Pourquoi les Juifs devraient-ils avoir peur? Après des siècles et des siècles de persécution, nous avons notre patrie et notre armée pour nous défendre. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur, puisque Baruch, pour le bien ou le mal, a porté le fer chez l'ennemi? Est-ce à celui qui porte l'épée d'avoir peur? Est-ce à celui qui répand le sang d'avoir peur? Une voisine de palier, une Russe de 39 ans qui vient juste d'avoir son premier enfant, a raconté à Myriam qu'elle était effrayée tout le temps. Quand nous traversons le hall, elle passe la tête à sa porte et demande si les Arabes sont dans la rue. « La guerre va bientôt commencer, » gémit-elle en secouant la tête. « Il y a la guerre jusque-là, dehors, j'en suis sûre. » Furieuse de l'avoir effrayé encore plus les enfants, je me suis mise à crier moi aussi. « Cessez donc d'avoir peur comme ça! Vous ne vous rendez pas compte que les Arabes ne souhaitent rien d'autre? Que tout le monde soit terrifié, si vous voulez paniquer, retournez donc en Russie. C'est chez vous, après tout. » Et je me suis entendue. Qu'est-ce que je racontais? Qu'est-ce qui m'a pris de dire une chose pareille? 16h30, le calme revient. Les enfants jouent dehors. Le petit Joshua s'amuse à courir derrière son gros ballon fait dans un sachet de plastique. Esti entoure de son bras les épaules d'une de ses amies. Samuel fait du vélo. Myriam court avec notre chien, ou le chien court après elle. La vie soudain est tout entière dans les enfants, étonnante de douceur. 18 mars. Franck est descendu jusqu'à la clôture pour parler avec Chakar, notre plus proche voisin arabe. Ils ont conversé en hébreu. Ils ne s'étaient pas vus depuis Pourim. Chakar a fait du café et en a offert un verre à Franck à travers le grillage. « Tu crois qu'il est possible de revenir à la coexistence ?» a demandé Franck. « Ce sera dur, » a dit Chakar. « Nous avons eu nos morts, nous aussi. »« C'est pas la même chose. »« Et pourquoi ?» Il y a eu 61 juifs tués depuis la signature du traité de paix. 50 des vôtres ont été pris dans la fusillade du caveau des patriarches ou dans des bagarres. Alors, disons que nous sommes quittes. Oh. Connais-tu des professeurs de l'université qui seraient d'accord pour mettre fin à toute cette folie? Ça se pourrait. Chakar est gardien à l'université islamique d'Hébron. Essaie de les faire venir ici et que nous parlions, proposa Franck. D'abord, il faudrait faire une souya. La souya est une cérémonie arabe de réconciliation. Les familles qui se sont déchirées se placent de chaque côté d'une rue, partagent un mouton ou une chèvre, puis font la fête ensemble. Il faudra que les gens de Kiryat Arba viennent en courbant la tête, poursuivit Chakar, et nous demandent pardon. Et vous aussi, vous demanderez pardon pour nos morts? Ah non, non, nous, c'est pas la même chose. En rentrant, Franck me dit, Chakar est incapable d'avoir de la compassion pour nos morts. Il ne peut pas. Ça lui est tout simplement impossible. Mais je vais écrire une lettre aux universitaires arabes de toute façon. Je me débrouillerai pour que Chakar la transmette. Il faut que nous fassions notre propre paix. Les politiques peuvent aller au diable. Samuel et Yossi ont parlé avec Caïs. C'était la première fois depuis un mois. Caïs est très affligé par les morts du caveau des patriarches, mais il les envie. Pour lui, ils sont désormais dans le jardin d'Éden, près de Dieu, buvant dans des gobelets d'argent, mangeant des fruits paradisiaques dans des couples d'argent, avec des serviteurs empressés tout autour d'eux. « Quelle flemme, dit-il, ils sont bien maintenant. Moi aussi, j'aimerais devenir un chaïd, un martyr. » 19 mars. Ce soir, après le Shabbat, Samuel et Yossi vont partir avec leur bicyclette pour le nord du pays. Demain, avec un ami, ils commencent un raid en vélo qui doit leur faire traverser toute la longueur d'Israël, depuis la frontière du Liban jusqu'à celle de l'Égypte, à Eilat. Évidemment, je m'inquiète pour eux. Mais en même temps, je sais que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à nos enfants est de leur laisser la liberté d'accomplir des choses fortes et positives. La chaleur pendant ce Shabbat est si estivale que tout le monde est dehors. Bruit et confusion. Les enfants du voisinage viennent s'entasser sur la pelouse sous nos fenêtres. C'est leur place favorite. Ils sont là en hauteur, juste au-dessus de la route, où passent les Arabes, hommes, femmes ou enfants, en voiture, à pied, à cheval ou à dos d'âne. Et bien sûr, la grande occupation est de leur jeter des pierres. Depuis que l'armée a pris position juste ici, c'est un peu plus difficile, mais pas impossible. Il suffit d'attendre que les soldats tournent le dos. Un gosse se précipite, lance ses pierres et disparaît. Les Arabes s'arrêtent, viennent à la clôture et hèlent les soldats en protestant. Pour la forme, ceux-ci attrapent un des mômes étendu sur la pelouse. 22 mars. Les yeux du monde sont braqués sur Hébron. Le gouvernement israélien va-t-il évacuer les colonies juives? La Croix-Rouge ou les casques bleus vont-ils venir ici? Les colons vont-ils être désarmés? En attendant, Pâques approche et les femmes nettoient la maison. Je n'épargne aucun coin et recoin et tâche de me soucier qu'il n'y ait plus de pièces, de poussière ni de toile d'araignée. À 6 heures hier soir, Rachel Manning a été enterrée dans le cimetière d'Hébron. Un personnage. Les Manning étaient des voisins et des sionistes dévots. Beaucoup de gens les connaissaient, surtout comme un couple recherché par le FBI pour avoir participé au meurtre de Patricia Wilkinson au début des années 80. Il y a 3 ans, un matin, la police israélienne cerna la maison des Manning à Ramat Mamre, au voisinage de Kiryat Arba. Ils demandèrent au couple de se rendre. Robert, que tout le monde ici appelle Bob, apparut en criant et en pleurant. Il était sans armes. Rachel et lui furent arrêtés. Dans les jours qui suivirent, les Manning devinrent le cœur d'un mouvement qui s'intitula « Do not extradite a Jew ». On n'extrade pas un juif. Pour beaucoup, il n'était qu'un couple aimant sa patrie et son peuple, et dont le seul crime avait été de tuer une nazie. Et il était impensable qu'Israël les livre aux goïm. Une pétition en leur faveur reçut des signatures de tout le pays. Dans un baraquement installé en face de la maison du Premier ministre à Jérusalem, j'ai vu les deux filles des Manning, Elena et Moria, protester en brandissant une pancarte où l'on pouvait lire « N'envoyez pas notre maman et notre papa sur la chaise électrique ». Néanmoins, en dépit de toutes les manifestations et les marches de protestation, un an et demi plus tard, la Cour de justice considéra que les Manning pouvaient être extradés. Il y eut encore des arguties de procédure, mais Bob Manning fut renvoyé en Californie. Et le mois dernier, les juges américains le condamnèrent à la prison à vie avec une peine de sûreté de 30 ans. Sa femme, Rachel, qui attendait en prison sa propre extradition, vient de mourir d'une crise cardiaque. Tout le monde ici est ému. Cela fait quand même beaucoup de tragédies pour un espace aussi confiné. Trop petit sans doute, si bien que nous ne pouvons éviter la peine des uns et des autres. 23 mars. Au milieu de l'après-midi, toutes les ménagères abandonnent précipitamment leurs balais et leurs éponges pour sortir sur les pelouses devant les immeubles et assister à une opération de l'armée contre les terroristes. La vallée se couvre de fumée. Un hélicoptère tourne en rond au-dessus des maisons. Les explosions succèdent aux fusillades. Comment peut-on faire le ménage de Pécha, Pâques, dans ces conditions? Gémit une voisine. Hier, mon mari est passé devant la commission d'enquête parce qu'il priait au caveau des patriarches quand le docteur Goldstein a tué les Arabes. Tout ce qu'il a fait, c'est de sortir de la salle de prière et d'être pris dans la panique. Mais il a vu tous les morts et le sang. Du sang partout. Depuis, il est malade. Il ne quitte plus la salle de bain. Il y est même encore en ce moment. Et moi, je ne peux même plus faire mon ménage. L'opération de l'armée continue toute la nuit. des hélicoptères lancent des bombes éclairantes qui illuminent la vallée. Par intermittence, nous entendons des tirs très violents, beaucoup plus violents que tout ce que nous avons pu entendre depuis que nous sommes ici. Il me semble qu'on secoue une feuille d'aluminium contre mes oreilles. Toute la nuit, le ciel reste blanc comme s'il était plein de neige. La plupart des voisins sont sur les toits et commencent à hurler « Tuez les Arabes !» Ce sont d'étranges journées. Tous les jours, les enfants de Baruch portent des pierres sur la tombe de leur père. D'autres y vont pour prier. Le mouvement pour sauver les Manning s'est éteint avec la mort de Rachel. Les vendeuses de magasins prennent des tranquillisants pour supporter le chaos. Le rabbin de Lubavitch est dans le coma, le cerveau peut-être déjà mort. Ces dévots l'avaient désigné comme le Messie. Ils affirmaient « Nous sommes les témoins de la rédemption. Ces jours sont les jours devenus du Messie. » Et puis, au milieu de tout cela, Neil, mon beau-frère, m'appelle en pleine nuit pour me dire que l'US News et World Report veulent publier des extraits de mon journal. Excitation et fatigue. Impossible de dormir, bien sûr. Depuis ce déluge de sang au caveau des patriarches, personne ne le peut. 28 mars. Kibbutz Lotan, à une cinquantaine de kilomètres au nord d'Elat. Nous sommes venus là pour prendre un peu de repos pendant les vacances de Pâques et aussi pour faire connaissance avec les gens d'ici. Ils veulent peut-être accueillir un professeur de philosophie et un écrivain, et nous voulons peut-être prendre des distances avec Kiryat Arba et Hébron. En fait, nous avons déjà droit à un prodigieux dépaysement. Après les combats de ces derniers jours, les fusillades nocturnes et l'avalanche contradictoire et oppressante de nouvelles, évacuation ou pas d'Hébron, qu'est-ce qu'a dit Clinton? Qui est le dernier mort? La paix silencieuse et douce du kibbutz est assez hallucinante. Nous avons passé la journée à élaguer et tailler des palmiers dattiers abîmés par un orage. Hébron est dans un autre univers. 5 avril. Retour à Kiryat Arba. Retour dans l'enfer des inquiétudes. Frank, Samuel et Esti vont reprendre la route chaque jour. Les soldats stationnent toujours sous nos fenêtres et patrouillent toujours le long des clôtures. Retour au ghetto. Pendant notre absence, les choses ont évolué en pire. Désormais, interdiction absolue pour les Juifs de Kiryat Arba d'aller à Hébron. Certains ont essayé quand même pendant le Shabbat précédant la première nuit de Pâques. Ils ont été arrêtés et incarcérés dans la prison militaire. Et juste avant que s'achève la Pâques, transférés à Jérusalem, bien que la loi religieuse juive interdise de voyager ce jour-là. À Jérusalem, bien sûr, aucun céder n'attendait les 6 prisonniers. Le céder, un repas pascal, dont le rituel domestique commémore la sortie de l'Égypte et la libération d'Israël. Son déroulement est codifié dans la Haggadah, ensemble de chants et de textes centrés sur l'Exode. Il commence à y avoir une sorte d'atmosphère bolchevique en Israël. On y fait de grandes campagnes louangeuses pour la démocratie dans les écoles, mais dans le même temps, on arrête et persécute les colons. Il paraît que, vendredi, l'armée refoula 3 autocars pleins de gens qui venaient fêter la Pâque dans Kiryat Arba. Seules, les personnes possédant des papiers prouvant qu'elles habitaient ici furent autorisées à entrer dans la colonie. Les autres se retrouvèrent à Bat Yam, sans même de provisions, pour passer le Shabbat et la Pâque. En plusieurs endroits, la clôture entourant la colonie était éventrée par des chiens sauvages. Chacun de ces passages est désormais soigneusement colmaté. là où les garçons avaient pris l'habitude de sauter pour rejoindre la maison de Caïs, les soldats ont surmonté le grillage avec des barbelés. Cette fois-ci, le ghetto est hermétiquement clos. On dit ici que ces mesures ne servent pas à nous protéger, mais à faciliter notre évacuation par l'armée. Dans une proclamation, de nombreux rabbins nous demandent de résister aux soldats s'ils venaient nous évacuer. L'humeur est incroyablement lourde. La haine des gens de gauche contre les colons de droite et les religieux orthodoxes s'accroît de jour en jour. En moins de 2 semaines, Itzhak Rabin a déjà accepté que des observateurs de l'ONU viennent dans les territoires occupés. Ils seront sans doute suivis bientôt par une police palestinienne. La vie est réellement difficile après l'attentat de Baruch Goldstein au tombeau des patriarches. Et June écrit même dans son livre que lorsqu'ils sont revenus en famille de quelques jours de repos dans la région d'Eilat, pendant notre absence, les choses ont évolué en pire. Désormais, interdiction absolue que les Juifs de Kiryat Arba aillent à Hébron. Ou encore, cette fois, le ghetto est hermétiquement clos. Et on dit que ces mesures ne servent pas à nous protéger, mais à faciliter notre évacuation dans l'armée. Que sera demain pour June et sa famille? Nous le saurons dans le prochain épisode de notre lecture du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt. À bientôt, chers auditeurs, et n'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.